Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler du hasard. En science, ce terme prend différentes significations selon qu'on parle de statistique, de biologie ou d'informatique. Pour en discuter, nous accueillons Jean-Paul Delahaye, mathématicien et informaticien à l'Université de technologie de Lille. Jean-Paul Delahaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, informaticien. Vous avez effectué de nombreux travaux autour de la notion de hasard. Comment définiriez-vous le hasard en informatique ?
Je ne pense pas qu'il y ait une définition particulière du hasard en informatique. Il y a un problème ou des problèmes particuliers liés au traitement du hasard en informatique.
Mais alors, quels sont ces problèmes particuliers ?
Il ne faut pas qu'il y ait d'événements inattendus qui se produisent quand un programme s'exécute, quand une machine fonctionne. Donc le premier travail des informaticiens, ça a été d'éliminer tout hasard. Et une fois qu'il a été éliminé, malheureusement, on rencontre un second problème, c'est que pour faire des simulations, ou en cryptographie, ou dans d'autres disciplines, on a besoin de créer du hasard. Donc on engendre des suites pseudo-aléatoires. Et là, il y a toutes sortes de difficultés qui se présentent.
Vous dites que vous engendrez des suites pseudo-aléatoires. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, on dit pseudo-aléatoire parce que l'idée, c'est d'utiliser un algorithme, donc quelque chose qui n'est pas aléatoire, justement, mais qui fonctionne d'une telle façon qui va simuler assez bien au moins certaines propriétés du hasard. Alors j'essaie d'être un peu plus concret. Si on engendre une suite de 0 et de 1 et qu'on veut qu'elle ressemble à une suite de résultats d'un tirage à pile ou face, bon, on ne va pas engendrer la suite 0,1, 0,1, 0,1, on va engendrer quelque chose qui soit en apparence irrégulier.
Et comment on génère ces suites de nombres pseudo-aléatoires ?
Alors, il y a des tas de façons de le faire. Et elles peuvent être plus ou moins bonnes. En particulier, une suite de tirages à pile ou face doit, à la limite, donner à peu près autant de 0 que de 1, en proportion. Donc il faut que la suite de 0 et de 1 qu'on va engendrer par un algorithme ait cette propriété-là. Sinon, elle va mal simuler le hasard.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Alors, une difficulté, c'est que, en fait, on sait... Par la définition même du hasard qui a été proposée en 1965 par le mathématicien qui s'appelle Martin Loew, qu'un algorithme n'engendrera jamais une suite vraiment aléatoire. C'est pour ça qu'on parle de suite pseudo-aléatoire. Donc on est dans une situation où on sait qu'on poursuit un objectif qu'on ne peut pas atteindre vraiment, mais qu'il faut essayer d'atteindre quand même le mieux possible ou en étant le moins loin possible. D'où les difficultés de la question.
Alors, quel est l'intérêt de poursuivre cet objectif de maîtriser le hasard ?
Il y a principalement deux intérêts. Quand on cherche à simuler un phénomène, par exemple, vous imaginez simuler la circulation routière. Bon, ben, les automobiles arrivent, elles n'arrivent pas toutes séparées de 20 mètres les unes des autres régulièrement. Il faut introduire un élément de hasard dans la façon dont les automobiles arrivent sur cette route qu'on veut simuler. Et puis, il y a des tas d'autres domaines en matière de simulation ou même simplement en matière de graphique quand on veut représenter un mur avec un crépi, bon, mais il n'est pas régulier. Donc il y a toutes sortes de situations en informatique où on a besoin de disposer d'un certain hasard. Il y a un domaine où le hasard joue un rôle absolument crucial, c'est le domaine de la cryptographie. Et les deux domaines, celui de la simulation et de la cryptographie, doivent être un petit peu séparés parce que le hasard ou le pseudo-hasard, les suites pseudo-aléatoires dont on a besoin en simulation, elles peuvent être assez mauvaises, c'est pas très grave à partir du moment où il y a bien autant de 0 que de 1, où c'est pas périodique avec une période trop petite, etc. C'est pas très grave. Par contre, en cryptographie, si on utilise un mauvais hasard, un mauvais générateur pseudo-aléatoire, à ce moment-là, l'espion, celui qui vous surveille et qui veut casser votre code, il va pouvoir le casser.
Oui, parce que la cryptographie peut servir notamment à décrypter ou crypter les codes des cartes bancaires.
La cryptographie, c'est le domaine où on cherche soit à cacher les informations pour les transmettre à quelqu'un qui, lui, pourra les déchiffrer. Mais il y a aussi d'autres fonctions de la cryptographie, comme l'identification. On imagine toujours en cryptographie que quelqu'un veut communiquer avec quelqu'un d'autre et qu'il y a un espion. Et cet espion, s'il devine ce que vous faites, et en particulier si vous utilisez des mauvaises suites pseudo-aléatoires, il va pouvoir décrypter votre code. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien préciser, c'est qu'en fait, quand on regarde de près les algorithmes de cryptographie, ou le problème de la cryptographie, il est à peu près équivalent de bien crypter, bien chiffrer un texte, que de créer du hasard.
C'est-à-dire ?
Très concrètement, si vous savez engendrer des vraies suites aléatoires, il existe des méthodes de cryptographie qui sont parfaites et qui sont prouvées parfaites. Et inversement, si vous disposez d'une méthode de cryptographie qui est bonne, vous pouvez l'utiliser pour générer des suites pseudo-aléatoires ou aléatoires même. Et donc, il y a une sorte d'équivalence entre les deux. D'où l'importance des suites aléatoires et pseudo-aléatoires en cryptographie.
On a parlé de cryptographie, de simulation, et dans le domaine des jeux, le hasard joue un rôle important, non ?
Alors, il y a un domaine où chacun, je pense, a un petit peu conscience que la production de hasard par l'informatique est importante, c'est, par exemple, dans les machines de casino. Une machine de casino, il faut qu'elle produise du hasard, parce que si elle produisait une suite qui n'était pas aléatoire, on pourrait gagner de manière certaine. Et alors, effectivement, les méthodes de génération d'algorithmes, de suites pseudo-aléatoires, sont utilisées dans les machines, les bandits manchots des casinos. Et pour ce type de machine, d'ailleurs, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, qui est parfois aussi utilisé en informatique plus classique, c'est que pour engendrer des nombres aléatoires, on utilise ce qu'on appelle des paramètres contextuels. Par exemple, on va utiliser l'heure, mesurée en secondes, pourquoi pas en centièmes de seconde, et le programme, à un moment donné, va consulter l'horloge auquel il a accès, et en fonction de l'heure, il va engendrer tel nombre qui va dépendre de l'heure. Et c'est une façon de faire dépendre un nombre d'un facteur qui est extérieur et qui ne peut pas être contrôlé par l'utilisateur, et qui va être aléatoire en un certain sens. Alors ces méthodes contextuelles servent en général plutôt à initialiser les générateurs pseudo-aléatoires. Parce que si on n'utilisait que ces méthodes-là, ça serait un peu dangereux aussi. Donc il vaut mieux se contenter d'initialiser des méthodes pseudo-aléatoires à l'aide de paramètres contextuels plutôt que d'utiliser que des paramètres contextuels. Et en plus, les paramètres contextuels peuvent être captés avec une vitesse trop faible pour que ça soit intéressant. Il y a un dernier point qui mérite d'être mentionné, c'est que comme on sait qu'on ne peut pas produire de hasard parfait avec un algorithme, depuis très longtemps, on utilise des phénomènes physiques qui naturellement produisent du hasard. Ce sont des problèmes de bruit thermique ou de choses liées à la mécanique quantique, dont on sait par la théorie physique elle-même que ça engendre une suite aléatoire ou qui ressemble bien à une suite aléatoire. Ou dans le cas de la mécanique quantique, on peut même faire le pari que c'est vraiment une suite aléatoire. Et donc, il existe des entreprises qui vendent du matériel qui engendre des suites aléatoires basées sur des phénomènes physiques. Et en particulier, il y a une entreprise suisse qui vend des générateurs de nombres aléatoires basés sur la mécanique quantique. Et alors, quand on utilise ces méthodes-là, on a à ce moment-là effectivement plus le risque qu'il y a avec les générateurs pseudo-aléatoires basés sur les algorithmes.
Vous parlez aussi de différentes formes de hasard. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Oui, alors pour résumer finalement tout ce que je viens de dire, on peut parler de hasard faible, moyen ou fort. Alors le hasard faible, c'est celui dont on a besoin quand on fait de la simulation. Parler des simulations de voitures sur une autoroute ou des choses comme ça. Donc là, on n'a pas besoin d'un hasard très fort. Ça ne fait rien si quelqu'un peut deviner ce qui va se passer ensuite. À partir du moment où ça ressemble assez bien à du hasard, c'est bien. Ensuite, il y a un hasard moyen, celui qu'on veut engendrer, qu'on veut utiliser en cryptographie, et qui doit avoir la propriété que deviner ce qui se passe à partir des premiers points d'une suite engendrée par une méthode comme ça, doit être très coûteux en calcul. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable avec des ressources limitées qui sont celles à la disposition d'un utilisateur ou d'un ordinateur à un instant donné. Donc, c'est cette notion-là que les cryptologues essaient de développer. C'est sur cette notion-là qu'il y a des résultats assez importants qui ont été découverts ces dernières années, où on a réellement réussi à proposer et à concevoir des algorithmes qui engendrent des suites pseudo-aléatoires fortes, donc ce que j'appelle plutôt le hasard moyen, et qui n'ont pas la faiblesse des méthodes utilisées en simulation. Et puis il y a une dernière notion, qui est celle donc, très forte dont je parlais, qui était définie par Martin Loff, donc on peut appeler le hasard absolu, qui ne peut pas être engendré par algorithme, et si on veut s'en approcher, il faut utiliser à ce moment-là des moyens physiques liés soit à la mécanique quantique ou à d'autres choses.
Merci Jean-Paul Delahaye d'avoir accepté notre invitation. En attendant notre prochain épisode, n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.